grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Si vous êtes parent ou grand-parent d'un adolescent, si vous en côtoyez, il est fort probable qu'il soit hyper connecté. Une génération née dans les années 2000 qui prétend avec plus ou moins de fierté être capable de faire plusieurs choses à la fois. Mettre en scène sa vie sur Instagram, Snapchat ou Youbo, la nouvelle appli vedette, mais également de regarder en même temps des vidéos sur YouTube ou suivre une série sur Netflix et dans le même temps préparer un exposé ou une interro pour le lendemain. Nous verrons hélas que ni le cerveau de nos adolescents ni celui des adultes n'est multitâche. Rester attentif, concentré reste un processus exigeant. L'attention et la concentration qui restent les clés de voûte de l'apprentissage et de la mémorisation. Ce matin, le psychologue clinicien Didier Pleu et la chercheuse en sciences cognitives Elena Pasquinelli nous rappellent quelles sont les règles fondamentales pour améliorer la concentration des ados. Que vous soyez adolescent ou parent, nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000. Sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Merci d'être venu en dépit de votre grippe. Hein. Vous êtes chef, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Chaque mercredi, vous jetez un regard singulier sur notre société. Quoi de neuf à la une du 1 cette semaine ?
Eh bien, on parlera du glyphosate qui continue à nous préoccuper à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture.
A tout à l'heure Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Avec nous ce matin pour aider les adolescents à mieux se concentrer, Didier Pleu, bonjour.
Bonjour.
Docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien et thérapeute. Vous publiez chez Odile Jacob « Développer la concentration de son ado ». Elena Pasquinelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, chercheuse en sciences cognitives à l'Institut Jean Nicot, à l'École Normale Supérieure. Et vous avez publié chez le même éditeur « Comment bien utiliser des écrans en famille ». Alors Didier Pleu, dans votre cabinet de psychologue à Caen, combien de fois n'entendez-vous pas la complainte des parents et des adolescents ? Il manque de concentration, je n'arrive pas à me concentrer.
C'est
de plus en plus fréquent dans votre cabinet.
Oui, non, de plus en plus fréquent, puisqu'en général les parents demandent une consultation quand il y a un petit dysfonctionnement à l'école, au collège ou au lycée, et en général... Le leitmotiv, c'est il ne se concentre pas, il est ailleurs, il rêve, etc. C'est toujours paradoxal, parce que ce sont des parents, et même les ados vont me dire... L'autre fois, il y avait un ado qui me disait « Mais Didier Pleu, je me concentre, regardez, quand je suis sur un skateboard, je peux faire une heure et demie la même répétition pour passer une marche d'un trottoir. » Effectivement, dans le plaisir, ils sont très bons, ils peuvent se concentrer des heures et des heures sur un jeu vidéo, et c'est ça que les parents ne comprennent pas, et eux-mêmes ne comprennent pas. C'est-à-dire, comment ça se fait que sur une leçon de mathématiques ou une dissertation de français, un apprentissage d'histoire, ça part aussitôt dans leur tête et ça ne va plus du tout, alors qu'ils peuvent se concentrer quand ils sont dans le plaisir.
Alors, Le Robert nous dit que la concentration, c'est l'application de l'effort intellectuel sur un seul objet. C'est la même chose que l'attention. Elena Pasquinelli, la concentration, l'attention, c'est synonyme ou c'est un peu différent?
C'est un peu différent parce que l'attention, en réalité, est un phénomène complexe qui inclut la concentration. Mais nous pouvons être attentifs d'une manière un peu générale, un peu de vigilance, hein, et après être happés par quelque chose autour de nous qui attire notre attention, du coup. Et du coup, on va se concentrer sur ce nouveau phénomène et on va focaliser, du coup, l'attention. La concentration, c'est plutôt une attention à la fois focalisée et aussi capable d'exclure d'autres distracteurs de manière à vraiment ne pas se laisser porter, du coup, par d'autres choses. Toutes ces composantes, y compris la distraction, en réalité, font partie de l'attention.
Quelle est votre définition de la concentration, Didier Pleu ?
La concentration, c'est ce que vous venez de dire, Elena, c'est cette capacité à exclure tout ce qui est parasite. Et en fait, est-ce qu'on est capable, quand on est adolescent, effectivement, d'exclure et ben ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire de répondre à son portable qui est à 20 cm, de effectivement faire autre chose quand ce qu'on nous demande au collège ou à l'école n'est pas très sympathique, c'est cette capacité émotionnelle à accepter, tiens, je suis dans le dur, je suis dans l'effort, je suis dans le difficile, est-ce que je peux de nouveau retrouver l'énergie pour me concentrer ?
Dire à un adolescent « concentre-toi », Ça ne suffit pas, Elena Pasquinelli.
Non, ça ne suffit pas. Mais même un adulte, hein, même entre nous, non, ça ne suffit pas. Ça rassure celui qui le dit, je pense. Ça te met bien à l'aise. Tu as dit ce qu'il fallait faire, c'est un ordre. Mais on ne sait pas sur quoi se concentrer, par exemple.
Didier Pleu.
Ben, c'est toujours le même problème, parce que si effectivement il y a des injonctions du style « pense à ton avenir, concentre-toi, travaille bien à l'école », moi ce que je vois, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Bon, pas tous, hein. Il y a des ados qui excellent à l'école. Mais je crois que majoritairement maintenant, il y a une grande difficulté devant cette histoire de « est-ce que les apprentissages sont sympathiques ? Est-ce que je peux m'y mettre à fond ?» etc. C'est pour ça que je dis toujours « mais vous vous concentrez, vous travaillez pourquoi ?» Et la première marche de la concentration, c'est l'avenir. Si quelqu'un se dit « mais à quoi ça sert ce que je fais ?», ça y est, c'est fichu. Donc il faudra qu'on en reparle de ça. C'est anticiper, c'est pour le travail, c'est pour ma future profession.
On va y revenir. Didier Pleu, les adolescents déconcentrés que vous suivez dans votre cabinet ne souffrent pas forcément de troubles physiologiques ou neurologiques. Vous vous intéressez aux troubles de la concentration courant.
Oui. Non, je parle pas des gens qui auraient un déficit effectivement neurologique, mais des ados tout à fait lambda qui effectivement eux voudraient bien travailler d'une façon comme leur voisin de classe, mais qui n'y arrivent pas. Donc c'est pour ça que je leur dis on va essayer de voir ensemble s'il n'y a pas des méthodes d'apprentissage qui peuvent te permettre de focaliser un peu mieux et surtout de voir ton système émotionnel, comment tu réagis quand tu es devant une tâche un petit peu complexe. Et surtout, je vais faire intervenir les parents, parce qu'on en parlait avec Elena avant l'émission, ça sera essentiel, l'apport des parents. C'est-à-dire faut arrêter de se dire ils sont autonomes, faut arrêter de se dire ils sont indépendants, ils vont y arriver, ils sont matures. Ils ne le sont pas, ils sont pas autonomes devant l'adversité, devant les choses frustrantes, d'où le rôle des parents.
Vous êtes d'accord avec ça, Elena
Pasquinelli ? Je suis d'accord, parce que je pense qu'on sous-estime les difficultés de faire attention. Ça fait tellement partie de notre vie et qu'on a l'impression que c'est tout à fait naturel de se concentrer sur une tâche extrêmement difficile, à la limite un peu déplaisante, ou pour laquelle on n'a pas de motivation, on ne nous a pas expliqué pourquoi il faudrait faire un effort. Plus naturellement, on est porté à faire attention à ce qui nous donne du plaisir, et du plaisir rapide, sans un grand coup. Du coup, l'attention et la concentration, c'est quelque chose qui s'apprend d'un côté, d'où le rôle aussi de l'école, non seulement des parents. Ça s'apprend, on apprend à comprendre ses difficultés, à mettre en place des stratégies. Ça s'apprend et ça s'accompagne, parce qu'on n'est pas nécessairement tout le temps capable de les faire tout seul.
Je vous propose d'écouter le neurobiologiste Jean-Philippe Lachaud, grand spécialiste de l'attention. C'était en 2017 dans Grand Bien Vous Fasse.
On peut parler de ce que va apporter le fait d'être concentré. On peut l'étudier dans pas mal de situations. Nous, on l'a étudié dans le cas de la lecture. Donc, vous savez, vous avez cette situation, vous lisez, Astrapi par exemple, et vous êtes un peu dans la lune. Et à la fin de la page, il faut tout relire, même si Astrapi est très intéressant. Et puis vous le reprenez, vous êtes bien concentré, et là au contraire vous pouvez tout raconter après. Et on montre très bien que des parties du cerveau qui sont impliquées dans vraiment les éléments de plus haut niveau de la lecture, donc l'accès au sens des mots, la compréhension, la mémorisation, vont être vraiment actifs dans le cas de la lecture attentive, alors que dans le cas d'une lecture plutôt distraite, c'est vraiment il n'y aura pas du tout d'activation de ces zones là donc c'est vraiment un effet tout ou rien.
Elena Pasquinelli, on a tous fait cette expérience de reprendre une lecture car nous n'étions pas assez concentrés.
Les anglophones l'appellent du mind wandering. Notre esprit se part quelque part et on s'en aperçoit pas. C'est rigolo, on s'en aperçoit seulement au moment où on doit revenir en arrière, mais pas au moment où on est parti dans nos pensées. C'est normal aussi. Nos pensées, comme les objets externes, attirent notre attention à certains moments. Notre attention peut se focaliser sur des rêveries, sur des pensées. Donc, elle fluctue. On ne peut pas non plus penser que notre attention, on puisse la concentrer tout le temps, qu'on sera tout le temps concentré sur la même tâche. À l'école, les enseignants, parce que moi je travaille pour la Fondation La Main à la Pâte, du coup beaucoup avec les enseignants. Les enseignants, par exemple, nous demandent est-ce qu'il faut une attention constante ? Est-ce que les élèves doivent être avec moi tout le temps sur la tâche ? Et justement, c'est Jean-Philippe Lachaud qui nous a aidés à répondre, non, l'attention va fluctuer, il faut savoir la refocaliser au bon moment. Mais comment faire ça ?
Rappelez-nous ce qu'est La Main à la Pâte.
C'est une fondation qui s'occupe d'éducation aux sciences et qui accompagne justement les enseignants de la maternelle jusqu'au lycée à créer des activités pédagogiques sur les sciences, mais aussi sur les sciences cognitives pour mieux comprendre comment on apprend, comment on fait attention, par exemple.
Didier Pleu.
Oui, mais sur l'attention flottante, très labile et qui est tout à fait naturelle chez l'humain, ce que l'on peut dire souvent, c'est que on perd sa concentration quand il y a des pensées parasites. Et quand il y a des pensées parasites, c'est qu'il y a des émotions parasites. Tout se tient. Et souvent, quand je demande à un adolescent, mais qu'est-ce que tu te dis au moment d'une tâche un peu complexe, je fais passer un test ou un truc un petit peu délicat, je demande souvent, quand je vois que ça va pas bien, c'est ce qu'on appelle le fameux conflit cognitif, quand il est devant quelque chose de difficile, bah c'est là que je vais entendre à quoi ça sert. Bien sûr, s'il n'y a pas d'objectif de profession plus tard, il y a une grande chance qu'il tire à l'arc sensible, mais ça peut être aussi, je suis pas capable de faire ça, là on va être dans des processus de dévalorisation, ça peut être aussi des processus d'anxiété, c'est-à-dire qu'est-ce que vont dire mes parents si je suis pas le super cadre, super note, et si je fais pas médecine en 3 ans, etc. Mais ce sont tout le temps des pensées automatiques, et il y a surtout cette pensée, c'est parce que ça me barbe, j'en ai pas envie, et ça c'est l'intolérance aux frustrations qu'on a déjà abordé ici,
on va y revenir,
c'est très important.
Votre livre est plein de bon sens, hein, Didier Pleu. Vous rappelez une chose simple, là, vous l'avez un peu évoqué. Quand un être humain trouve du plaisir à accomplir une tâche, il souffre rarement de problèmes de concentration.
Ben, c'est toujours la grande hypothèse, c'est ce que j'avais appelé le complexe de Tétis. C'est-à-dire, si on n'inclut pas du déplaisant, du difficile dans la vie d'un enfant et surtout d'un ado, il va déséquilibrer effectivement ses forces, quoi. C'est-à-dire, il va devenir fragile et vulnérable devant tout ce qui est difficile. Donc, c'est toujours, il faut maintenir ça parce qu'on est tous d'accord. Dans le plaisir, on est bon, dans la non-frustration, on est motivé, mais le problème, c'est que la scolarité et les apprentissages qu'on n'aime pas, c'est l'inverse, quoi. Oui, souvent des ados arrêtent la musique parce que le solfège est trop difficile, ils arrêtent le sport parce que l'entraînement est trop délicat, et ils se déconcentrent à l'école parce que ça n'est pas marrant, j'en ai pas envie, j'aime pas ça. Et c'est là qu'il faut les aider, parce que je me souviens de Mérieux me disait dans un colloque... Philippe Mérieux disait dans un colloque, tous les ados ont envie d'apprendre. Il y a le désir d'apprendre. Mais je crois que les ados n'ont pas le désir d'apprendre des choses difficiles. C'est là qu'il faut les aider.
Elena Pasquinelli, être concentré, c'est faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire en luttant contre la dispersion. Le problème, c'est que les distracteurs ressemblent à des pâtisseries pour notre cerveau, à des gros gâteaux très appétissants. Les écrans sont des choux à la crème pour notre cerveau. Ils activent le circuit de la récompense.
Absolument, il y a comme on vient de l'entendre, hein, il y a beaucoup de plaisir qui passe par ces distracteurs, un téléphone portable à côté de nous, et ce petit gâteau qui contient le plaisir du petit message de mon ami, le plaisir de la petite information un peu gourmande, hein, sur quelqu'un qui aurait fait quelque chose de bizarre, ou qui contient tout simplement un moment de jeu, de détente, etc. Donc on a une pâtisserie entière dans l'espace de quoi, 5-10 centimètres carrés, qui risque d'être souvent à côté de nous grâce à sa portabilité. C'est pas un objet du diable du tout, c'est juste un objet qui...
Mais il faut rappeler aux parents que c'est naturel. Quand un élève de terminale révise par exemple une page de Sénèque ou de Spinoza, c'est difficile de faire le poids face à ces distracteurs, à ces choux à la crème que sont les portables, Didier Pleu.
C'est pour ça qu'il faut que le parent aide. Alors souvent, dans mon petit guide est plein de bon sens, mais il lutte aussi contre cette fameuse quête du sens qu'on donnait à l'adolescence. J'ai toute une partie qui dit méfiez-vous, la fameuse crise d'adolescence, etc. Il faut que le parent intervienne. On nous a toujours dit dans notre culture, laissez-le autonome, il faut qu'il se colte les difficultés. Là, on dit non. Un adolescent, est-ce qu'il est capable, justement, quand il est dopé avec sa dopamine de circuit court, de smartphone, etc., est-ce qu'il est capable tout seul d'éloigner son portable? Non, il n'est pas capable de le faire tout seul. C'est pour ça que dans nos programmes au cabinet, on dit toujours, on va te déconditionner, on va te désintoxiquer parce que tu es sous dopamine. Et on a besoin de sérotonine pour se concentrer.
Rappelez ce qu'est la dopamine et la sérotonine, tiens.
La dopamine. Là, vous me posez une colle, hein. Je vais aller voir. Non, mais c'est bien sûr, ce sont deux ordres de...
C'est l'hormone du plaisir immédiat, pour le dire
vite.
Voilà,
ça dope, ça donne un plaisir, une sensation, mais le problème, c'est un circuit court. Donc, c'est-à-dire qu'on en veut tout de suite plus. La sérotonine, au contraire, c'est l'hormone qui calme, qui rend serein.
Elle est là. Neurotransmetteur, mais oui. c'est deux façons de décrire, effectivement, cette difficulté de ne pas céder à quelque chose qui nous donne tout de suite du plaisir, mais aussi d'apprendre à trouver du plaisir dans l'effort ou dans quelque chose que dans un premier moment nous demande tout un effort. Du coup, le fait de l'apprendre permet aussi de l'automatiser, de mieux le faire et du coup de réduire l'effort. Mais cet effort initial reste nécessaire et assez difficile.
Elena Pasquinelli, le combat n'est pas perdu face à ces distracteurs qui envoient donc des shoots de plaisir immédiats dans le cerveau des adolescents. Et pas que, évidemment.
Et pas que, parce qu'on a exactement les mêmes distractions, ouais. Même si à l'adolescence, il y a quelques processus en plus qui rend difficile de contrôler justement cette prise de risque de perdre son attention. Non, je pense pas que le combat soit perdu. Il faut juste le connaître, c'est-à-dire ignorer le combat, se dire que tout va bien parce que de toute manière, je sais gérer, par exemple. C'est quelque chose qu'on entend. Ou que je suis devenue, ou que tu es devenue multitâche parce que tu es née immergée dans ce système-là, donc tu peux t'en sortir. C'est déjà un obstacle. Reconnaître qu'on est en difficulté, c'est une première solution. Et après, il faut se donner des stratégies.
Et puis, il est important de ne pas diaboliser ces distracteurs, ces distractions.
Absolument, ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur moment. C'est juste que dans certaines situations, nous empêchent d'obtenir les objectifs qu'on s'est fixés.
Allez, on vous attend au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Que vous soyez parent ou ado, Alexia Lacour et Alexia Rivière m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Beauve et c'est réalisé par Claire Destacan.
No, I don't wanna fall in love.
Julien Bisson, ça vous rappelle les slows de votre adolescence, hein, oui. Chris Isaac. Hein.
Et oui, on était très concentrés à l'époque, vous voyez, c'est le principe de plaisir.
Encore 5 minutes d'attention.
Non,
grand bien vous fasse.
Et puis après, je vous raconterai l'histoire du zéro.
Pas question.
Sur France Inter.
Et on se tait.
10h26, comment aider les adolescents à mieux se concentrer? C'est notre thème ce matin avec le psychologue clinicien Didier Pleu qui publie « Développer la concentration de son ado » et la chercheuse en sciences cognitives Elena Pasquinelli, l'auteur de « Comment utiliser des écrans en famille ». Vous pouvez poser vos questions au 01 45 24 7000. Didier Pleu, on a parlé tout à l'heure des distracteurs que sont notamment les écrans. Une des pistes pour éviter ces distracteurs, c'est de savoir organiser son environnement de travail.
Oui, l'organisation du milieu, c'est pour ça que je demande là aussi aux parents à aider l'adolescent. C'est-à-dire, oui, bien sûr, on évite tous les écrans, mais il faudra mieux les séparer, ne pas laisser les écrans à portée de main. Mais il faut aussi regarder s'il y a trop de posters. Alors, je demande pas ce que ce soit une cellule
monacale,
je sais pas quoi.
Vous êtes fou, Didier Pleu.
Mais c'est vrai, quand je vois, il y a des ados qui me disaient ça. Ils avaient, par exemple, l'équipe du PSG en grand poster devant les yeux. C'est effectivement, dès qu'on est devant un texte ardu, si on commence à regarder le poster à Mbappé, il y a de grandes chances qu'on soit dans une partie de football.
C'est d'organiser son bureau avec le moins de stimulation possible. Pas toute la chambre, évidemment.
Voilà. Et par contre, à la place du poster qui est un distracteur, autant mettre, je leur dis souvent, mais c'est ce qu'on aura travaillé, mets ton objectif à long terme. C'est-à-dire que l'ado sache exactement que si je suis à l'école, si je fais de l'anglais, c'est parce que j'ai envie plus tard de je sais pas quoi, d'être un commerçant international. Ça, c'est plus tard. Et il faudra quoi? Il faudra un bac plus 5. Il faudra quoi avant? Un bac tout court, un bon bac. Et cette année, qu'est-ce que tu feras? Passer en classe supérieure. Et ce soir, qu'est-ce que tu fais? J'apprends mon anglais. On fait quelque chose comme ça, un grand tableau qui montre qu'au moment présent, si je me dis pas je travaille pour mon objectif à très long terme, ça ne marchera pas. Ce sont des tas de petites méthodes comme ça.
Écoutons à nouveau le neurobiologiste Jean-Philippe Lachaud.
Vous êtes en échec, puisque vous essayez de faire plusieurs choses à la fois et puis vous n'y arrivez pas bien. Et puis d'autre part, vous n'êtes pas cette connexion avec l'activité qui permet, qui enrichit, qui permet de dépasser la relation superficielle avec votre activité. Vous n'êtes pas vraiment dans le contact qui va un petit peu vous enrichir, vous emplir. Et puis d'autre part, vous êtes en conflit avec vous-même. C'est-à-dire que dans le cerveau, ce qui va se passer, c'est que vous avez différents réseaux qui vont être en charge chacun des différentes tâches que vous essayez de mener de front. Et ils vont un petit peu se combattre les uns les autres, ou s'inhiber, on dirait, en termes de neurosciences. Et ça va créer des pertes d'énergie et une sensation un peu de souffrance et de mal-être.
Elena Pasquinelli, une idée reçue, veut que le cerveau des adolescents soit multitâche. La révolution numérique aurait modifié en profondeur le fonctionnement cérébral des ados. Et c'est faux.
Il n'y a aucune preuve de cela et ça va même contre les connaissances qu'on a effectivement du fonctionnement du cerveau, qui est un fonctionnement assez stable, assez ancien. On a parlé avant des gâteaux pour le cerveau, justement, c'est les écrans ou d'autres distractions marchent bien parce qu'ils vont activer des choses qui sont anciennes dans notre cerveau, des préférences, pas parce que notre cerveau a été transformé par ces écrans même. Donc voilà, ce cerveau ancien ne s'est pas transformé tout d'un coup en un cerveau multitâche. La chose qui arrive, c'est qu'on se trouve de plus en plus se voir imposer ce multitâche. Donc c'est une tâche externe, c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur, on se le voit imposer, notre cerveau n'est pas capable de le gérer, du coup il court entre guillemets, il jongle si vous voulez, c'est une expression de Jean-Philippe Lachaud qu'on vient d'écouter, il jongle entre une activité et une autre sans se rendre compte, il passe rapidement d'une activité à une autre, d'où une fatigue aussi cognitive, la perte du coup de la capacité à mener à bien la tâche et le risque à un certain moment, quand on est sur l'autre tâche distrayante, de partir loin, de ne pas revenir.
Il y a un exercice à faire avec ces ados et c'est le neurobiologiste toujours Jean-Philippe Lachaud qui le propose. Faites l'expérience suivante. Vous dessinez deux lignes de 11 ronds sur ces deux lignes. Vous demandez à votre adolescent de compter les ronds. Et puis ensuite, vous demandez de compter à voix haute et en même temps d'attribuer à chaque rond un nom d'animal commençant par la lettre C. En même temps, c'est très important. Elena Pasquinelli, c'est quasiment impossible à faire. Et là, on voit que notre cerveau n'est pas multitâche. Parce que ça crée du stress, de l'inconfort, de devoir compter chaque rond et en même temps d'attribuer le nom d'un animal commençant par ça.
Et on fait des erreurs, on voit qu'on bloque, etc. Moi, je trouve que c'est très intéressant de faire cette petite expérience à la maison comme à l'école. Nous, on l'avait il y a quelques années proposé dans un volume d'activités pour les élèves à l'école, même à l'école primaire. des activités de ce genre où on fait l'expérience des difficultés de l'attention. On a ce moment de surprise où on se dit « je croyais en être capable ». Franchement, j'aurais parié que je pouvais le faire. Et quand on se rend compte qu'on ne peut pas le faire, à la maison comme à l'école, ça donne l'occasion d'avoir ce dialogue avec l'adulte, de rouvrir le dialogue et de se dire bah, « alors, si on n'arrive pas à le faire, quelle stratégie on peut trouver ensemble pour que je ne me trouve pas face à cela quand je dois faire mes devoirs, quand je dois écouter mon enseignant ou me concentrer pour obtenir un objectif, y compris voir tous les matchs de foot jusqu'à la fin ?»
Didier Pleu.
Oui, ben, c'est pour ça que je propose aussi dans ce petit guide, et c'est ce que je fais aussi au cabinet, des tas de techniques, on appelle ça des techniques de remédiation cognitive. Ce sont des exercices comme ça. Il faut que l'adolescent voit immédiatement certains résultats grâce à notre concours. C'est-à-dire, par exemple, on va chercher le critère pertinent dans un texte. L'adolescent va voir que s'il perd du temps à chercher ce fameux critère pertinent, c'est frustrant, c'est difficile, j'aime pas ça, je préfère lire le texte très vite, il va gagner du temps ensuite pour répondre à une question. C'est toujours ce rapport. Si j'accepte le déplaisant en phase 1, je vais voir que derrière, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais ça, il faut le pratiquer avec l'adolescent. Si ça n'est que de la parole, concentre-toi, tu sauras muter le son de main. Non, on va lui donner des exercices pour lui montrer que dès que tu acceptes le dur, le difficile, le j'ai pas envie, derrière, il se passe quelque chose.
Bonjour Arnaud, vous appelez de Rennes, bienvenue dans l'émission, vous avez une question à nos invités.
Oui, alors déjà bravo pour vos émissions.
Merci beaucoup.
En fait, moi j'avais des gros soucis de concentration quand j'étais gamin, collège, lycée, tout ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui et j'ai jamais trouvé de solution. En fait, je veux savoir si il y avait une continuité un peu dans l'inattention ou s'il y avait des solutions vraiment faciles quoi pour y remédier. Parce que là, je suis au bureau, par exemple, et en gros, bah, je vous écoute et je vous écoute plus que ce que je devrais travailler, quoi.
Bon, écoutez, je vais pas vous donner tort.
Ah, c'était le mauvais exemple, du coup.
Didier, c'est intéressant ce que nous dit Arnaud, c'est-à-dire qu'il était plutôt déconcentré, un adolescent plutôt déconcentré, et ça continue à l'âge adulte.
Oui, parce que je crois qu'à l'âge adulte, il y a toujours l'aspect émotionnel dès qu'on est dans une tâche routinière qui ne nous passionne plus. Et c'est là qu'il faut avoir une bonne connaissance de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me déroute? Quand Arnaud nous dit, bah, je suis en train de me... C'est qu'il était sans doute sur une tâche de travail qu'il n'appréciait pas. Et c'est là qu'il faut faire le point. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Parce que j'en ai plus envie, il faut que j'ai une distraction immédiate. Il y a une espèce de remise en cause. C'est pour ça que je dis souvent, dans cette approche-là, il y a la remise en cause des parents qui doivent aider les ados, contrairement à ce que leur dit souvent les psys, détachez-les, mais aussi la responsabilité de l'adolescent et de l'apprenant lui-même, de se dire « mais qu'est-ce qui me bloque émotionnellement ?»
Elena Pasquinelli.
Je pense que l'attention, ça s'apprend. C'est une fonction naturelle, bien sûr, mais faire attention, on l'a dit plusieurs fois lors de cette émission, faire attention à certaines choses, une tâche de travail difficile ou juste ennuyeuse, on en a, on peut le dire, de temps en temps, demande une attention qui n'est pas agréable à ces moments à porter. Donc, on n'est plus porté à la distraction. Ça s'apprend, ça veut dire qu'on apprend à se connaître, à connaître quelles sont les limites de l'attention et à se dire, dans ces situations-là, je sais que je serai distrait parce que il va se passer naturellement que je ne me concentre pas sur une tâche plus difficile, je devrais mettre en place des stratégies pour m'aider. Et ces stratégies-là, voilà, il faut un peu, d'un côté, c'est les donner presque, je dirais, par écrit, c'est-à-dire c'est les imposer comme des petites règles. Après, ça devient plus habituel, plus automatique. Mais voilà, il faut un peu se les imposer.
Et c'est fondamental, c'est que ça devient après une habitude. Et ça, quand l'ado voit que s'il s'habitue au déplaisant, au frustrant, à cette fameuse période de conflit cognitif, il y a un moment donné, ça y est, il dépasse. C'est un peu comme un sportif qui s'habitue à l'échauffement, un musicien qui s'habitue à la répétition.
Arnaud ?
Oui ?
Vous aviez une chose à ajouter ?
Oui, une petite précision par rapport à ce que disait Mme Pasquinelli. Justement, c'est vrai que depuis qu'il y a les écrans tactiles et tout, c'est encore pire en fait.
C'est encore pire.
Oui, parce que si effectivement on passe sa journée sur des écrans et qu'on est dans le numérique, etc., on est tout le temps dans quelque chose d'immédiat. Donc ça veut dire, j'ai besoin de savoir un truc sur Melbourne pour que j'appuie là, j'ai besoin d'avoir un message appuyé là. Et c'est l'inverse de ce que l'on dit avec Elena, c'est-à-dire la concentration, c'est l'inverse de la facilité, c'est l'inverse de l'immédiateté. C'est accepter qu'il y a du court terme déplaisant pour du moyen et long terme plus facile.
Et juste une chose, parce que des fois, malheureusement, il y a, quand on parle aussi d'attention, un côté moralisant où on se sent méchant de ne pas être capable de faire attention ou que nos adolescents ne sont pas capables de faire attention. J'ai exactement les mêmes problèmes. Hein. Je veux dire, on a beau écrire des livres ou en parler, c'est un problème pour tous. Moi, je sais que si je dois écrire une page de livre, par exemple, qui me demande énormément de concentration, je m'oblige à débrancher Internet.
Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous faites quoi?
J'ai débranche. Je débranche ou je m'isole dans des endroits où il n'y a pas Internet. Je calcule à l'avance. Ça demande une préparation. C'est pour ça que je dis des stratégies. Je dois préparer les articles que je dois lire à l'avance parce que si je me dis je les aurai sur l'ordinateur sur lequel j'écris, je vais passer un peu de l'un à l'autre. Donc, stratégie.
Ce que dit Alina est très important, parce que si on dit à l'ado, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je te propose, etc., ce côté docte parental ne leur plaît pas. Il faut le faire, ça c'est incontournable, mais il faut aussi dire, c'est ce qu'on appelle la révélation de soi, il faut aussi dire à l'ado, j'ai ces problèmes-là aussi en tant qu'adulte, j'ai du mal à décrocher du smartphone, j'ai ça au boulot ça a été pareil. Le dire, mais j'ai des stratégies, et en tant qu'adulte j'ai des stratégies, pourquoi t'en aurais pas en tant qu'ado? Il faut surtout pas dire, bah voilà, moi je sais ce que c'est que l'effort, toi tu sais pas, etc.
Merci beaucoup Arnaud de nous avoir appelé. Alors Didier Pleu, vous le disiez tout à l'heure, se concentrer, c'est définir des objectifs précis. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des buts, un projet, un rêve professionnel pour améliorer sa concentration ?
Parce que ce que je vois souvent, et on le voit bien, vous avez vu la panique qu'il y a quand on parle de Parcoursup, etc. en ce moment, c'est-à-dire tout d'un coup, en terminale ou voire en seconde, il y a des ados qui commencent à se dire « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» Alors ça, je me souviens très bien d'avoir participé dans un collège avec des enseignants, on parlait de l'avenir professionnel, et tous les gens disaient « faut arrêter de mettre de la pression, on ne parle que de boulot, on ne parle que d'avenir, passe ton bac, etc. Il faut arrêter, il faut les laisser un petit peu s'épanouir. » Moi, je disais « mais non, l'école n'est pas forcément un lieu de développement personnel, c'est un lieu où on doit apprendre le lien entre les apprentissages et le futur professionnel. Quand j'étais petit, c'est vrai que je suis d'une autre génération, mais dès la classe de CP, on appelait ça la dixième à l'époque, on nous disait qu'est-ce que tu veux faire
plus
tard.
On n'a pas connu.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Ali? Je vous jure que tous les ans, on nous demandait ça. On passait de pilote de ligne à gendarme, militaire ou je ne sais quoi, clown, etc. Mais ça voulait dire qu'on faisait le lien constamment, même tout petit, entre ce qu'on va m'apprendre et ce que je vais faire plus tard. C'est-à-dire, les enfants actuels, les ados, ne savent pas où ils vont.
Est-ce que vous c'est qu'il est très difficile d'accepter une tâche difficile si on ne sait pas pourquoi. Vous êtes d'accord avec ça, Elena Pasquinelli?
Bien sûr, parce que ça demande de l'effort. Et du coup, ça demande aussi cet apprentissage de l'effort et de la motivation pour avoir cet effort. Je pense que se projeter dans le futur, effectivement, assumer un projet, mais un projet à moyen, long terme, est important pour cela. De l'autre côté, il est aussi important, effectivement, de prendre conscience que l'effort est nécessaire et que l'effort, là aussi il y a un peu une rhétorique dans laquelle on a immergé comme quoi il faut apprendre sans effort, voilà. Il faut à tout prix trouver une stratégie pour apprendre sans effort, alors que on peut changer de stratégie peut-être et de rhétorique aussi.
Didier Pleu boit du petit lait. Il y a une chose très pratique à faire, c'est d'avoir une petite fiche sur son bureau, enfin le bureau de l'adolescent, et de mettre ses objectifs. À long terme, à moyen terme et à court terme.
On tire à l'arc, il faut une cible, donc on les objectifs à très long terme, notre rêve, et qui va motiver, et à moyen terme, ça sera forcément des diplômes, une qualification professionnelle, et à court terme, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour participer à cet objectif? C'est un peu comme un grand champion de basket qui disait, moi quand j'étais petit, je voulais être basketteur, mais je me disais, le soir, je vais faire des pompes pour muscler mes bras. Voilà.
Bonjour Afaf Soumri, bienvenue dans l'émission.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes consultante en efficacité professionnelle et vous avez écrit un petit livre, Le Miroir, les enfants et Monsieur S. C'est un petit livre pour apprendre la confiance en soi aux enfants. Vous rejoignez Didier Pleu sur cette idée d'avoir des objectifs à atteindre pour favoriser la concentration?
Tout à fait. Je pense en fait que le plus important, c'est justement d'avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi, c'est être conscient que l'on peut atteindre des objectifs, avoir des rêves et que ces rêves, en fait, on peut les réaliser. Et d'ailleurs, quand j'enseignais, c'est toujours ce que je disais à mes étudiants. Je crois en vous. Je crois en vous. Je sais que vous êtes capable, d'avoir votre BTS et bien plus encore. Et ce qui les amenait, bien entendu, à se concentrer. Alors, une chose aussi par rapport à la concentration, j'avais pas attendu, en fait, les indications de notre cher ministre de l'Éducation nationale pour prendre les portables, puisque je demandais à mes étudiants de déposer leurs armes. Je comprends, bien entendu, les portables, et ce qui leur permettait de se concentrer bien jusqu'à la pause. Donc ça, c'était une chose. Mais je pense vraiment que si on aide les adolescents, les étudiants, enfin les jeunes adultes, à se focaliser bien sur eux-mêmes, d'une manière humble, sans égoïsme, et puis se dire qu'en fait, tout est possible, ils ont la capacité à se concentrer.
Et pour vous, un ado conscient de ses potentialités, ça permet une bonne concentration, une bonne attention?
Oui, parce qu'en fait, c'est toujours agréable de se dire que je vais pouvoir me concentrer. Et puis surtout, la finalité, c'est de réussir cet objectif, c'est d'atteindre cet objectif. Donc je pense qu'il est important de leur dire régulièrement qu'ils peuvent tout faire et réussir.
Quasiment tout. Elena Pasquinelli, sur ce que vient nous dire Faf Soumri.
Il y a effectivement pas mal d'études qui montrent que la confiance en soi et surtout le manque de confiance en soi a un rôle important sur la motivation. Et ceci pour les bons comme pour les mauvais élèves. C'est intéressant de remarquer que on vit souvent dans une situation où parents comme enseignants, hein, c'est un réflexe assez automatique qu'on a de louer le fait que tu es intelligent, par exemple. Ah, mais bravo, mon fils, il est intelligent, il a eu une bonne note, il est intelligent. Ah, c'est comme ça. Ou il a eu une mauvaise note, il est stupide. Donc, de lier ce résultat à une image de soi. Du coup, le résultat lui-même est lié à l'image et on se prend pour quelqu'un qui réussit ou qui ne réussit pas. Or, ce type d'image-là est extrêmement risqué pour la motivation. Le jour où le bon élève obtient la mauvaise note, du coup, la mauvaise note n'est pas juste une mauvaise note qui arrive, manque d'effort justement pour préparer ce devoir, mais c'est un jugement sur toi. Tu n'es pas intelligent. Du coup, la motivation, elle s'écroule.
Et la concentration et l'attention.
La capacité d'apprentissage, d'où l'importance de louer justement l'effort plus que le résultat et délier le résultat à ta capacité générale.
Merci beaucoup à Faf Soumri d'avoir témoigné. Julien Bisson, c'est votre heure, c'est votre moment dans le 1 cette semaine. Vous vous posez la question du glyphosate.
Oui, mon cher Ali, parce que
cet herbicide qui fait tellement parler de lui.
Oui, au moment même où vous parlez de la concentration des ados, moi je m'interroge de mon côté sur la concentration de glyphosate dans nos urines. À Toulouse, une campagne de tests a entraîné la plainte en justice de dizaines de Français sidérés de découvrir le taux de glyphosate dans leurs urines, alors même que ce produit est classé comme probablement cancérigène par l'OMS. Bon, rappelons rapidement de quoi on parle. Le glyphosate est un des herbants breveté en 1974 par Monsanto et commercialisé sous la marque Roundup, avant de tomber dans le domaine public en 2000. Une pulvérisation et votre champ est protégé des mauvaises herbes. Oui, mais à quel prix ? Car les conséquences sur la santé des agriculteurs notamment sont alarmantes, avec des cas suspects de cancer ou de maladie de Parkinson, sans oublier les dégâts sur l'environnement causés par ces pesticides et notamment sur les insectes volants, dont 75% ont disparu en 30 ans. Et pourtant, le glyphosate est encore là et Emmanuel Macron a d'ores et déjà laissé entendre que l'interdiction prévue en 2021 n'aurait sans doute pas lieu.
Alors j'ai dit glyphosate, c'est un hommage à Karl Lagerfeld en fait. Pourquoi le glyphosate n'est-il pas tout simplement interdit ? Pourquoi continue-t-on à l'utiliser ?
Et d'abord parce que le glyphosate n'est qu'une facette d'un système beaucoup plus vaste, celui de la chimie au sein de notre agriculture. Et les molécules alternatives au glyphosate qu'on utilisait auparavant sont en réalité encore plus toxiques pour la santé. Pour se passer de glyphosate, il faut donc engager un mouvement beaucoup plus large, vers l'agroécologie bien sûr, mais aussi vers l'agronomie, c'est-à-dire la formation des agriculteurs eux-mêmes pour utiliser des alternatives non toxiques, comme le choix des bonnes variétés, l'utilisation des coccinelles, ou même celle de machines intelligentes capables de désherber grâce à des capteurs ou des caméras. Mais qu'en pensent-ils justement, ces agriculteurs ? Pour ce numéro, nous avons rencontré plusieurs d'entre eux et, à vrai dire, tous regrettent l'utilisation du glyphosate. Mais si certains ont engagé la transition vers une agriculture sans pesticides, d'autres jugent qu'on se trompe de combat en ciblant le glyphosate et qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire autrement. Comment embaucher quelqu'un pour désherber ou payer des machines, nous disent-ils, alors qu'on est déjà surendetté et qu'un litre de glyphosate coûte le prix d'une boîte de Doliprane ? Et là, c'est vers le consommateur qu'ils se tournent. C'est à sa responsabilité qu'ils en appellent, comme nous l'explique Christian Huyg, directeur scientifique de l'INRA. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'ils peuvent continuer à manger pour presque rien. Les ménages consacrent seulement 11% de leurs revenus à la nourriture, contre 27% en 1960, rappelle-t-il. Un moindre recours aux pesticides pourra entraîner une augmentation des prix des aliments, mais le succès du bio prouve que les consommateurs sont sensibles à l'argument de la qualité. Bref, c'est tout un écosystème qui doit évoluer. Dans quelques jours va justement s'ouvrir le salon de l'agriculture. On ne peut pas rêver de meilleure occasion pour se concentrer sur le sujet.
Didier Pleu.
Oui, ça me faisait penser à quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire qu'il y a des pesticides pour les terres agricoles, mais il y a aussi des pesticides pour le cerveau, il y a aussi le cannabis. Hein. Il y a beaucoup d'ados aussi qui banalisent tout ça en disant bon, c'est un pet de temps en temps, un bédo le soir. Non, c'est terrible au niveau de la destruction du centre de la volonté.
Et de la concentration.
Exactement.
Julien Bisson, tous les mercredis, glyphosate, comment s'en passer ? C'est le sujet à la une de l'hebdomadaire Le 1. À retrouver en kiosque et en librairie. Dans quelques instants, on continue à vous donner des pistes pour aider les adolescents à se concentrer. 01 45 24 7000.
Tu sais que baby blues, 5 dollars baby, 5 dollars baby blues, 5 dollars baby. C'est évident à plus aimer, moi j'avais pas échoué toi baby.
Christine and the Queens interprétaient Five Dolls.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h48, comment aider les adolescents à mieux se concentrer, c'est notre thème ce matin avec le psychologue clinicien Didier Pleu et la chercheuse en sciences cognitives Elena Pasquinelli. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Didier Pleu, Elena Pasquinelli, apprendre à se concentrer, c'est également comprendre ses émotions, les gérer entre guillemets. Pourquoi est-ce que les émotions désagréables peuvent miner la concentration? Miner la confiance en soi et donc faire baisser la concentration.
Oui, par exemple, c'est l'hypothèse chez les ados particulièrement anxieux. Si effectivement ils se disent tout le temps avant de démarrer une tâche scolaire, est-ce que je vais bien faire? Est-ce que la note, ça sera ma valeur? Il y a une espèce de confusion entre l'école et son identité, ça ne marchera pas. Donc dans ce cas-là, on essaie de dire non, c'est un comportement, l'apprentissage, etc. Donc faut essayer de relativiser les choses. Oui, c'est l'émotion est toujours derrière. C'est ou la confiance en soi, ou alors la grande émotion pour laquelle je me bats depuis des années, qui est où est-ce qu'on a écrit qu'il fallait apprendre dans le plaisir. Ça, c'est une émotion dite d'intolérance aux frustrations. Elle n'est pas terrible parce qu'elle génère beaucoup de comportements de non-attention et de déficit en concentration.
Vous aidez les adolescents à travailler sur trois grands générateurs d'angoisse, Didier Pleu. Je ne devrais pas m'angoisser, je devrais comprendre tout de suite ce qu'on m'apprend, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ça, vous essayez de travailler
tout
sur...
Tout à fait, ça c'est sur des personnalités particulièrement anxieuses, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et surtout ces espèces de leitmotifs qu'ils ont dans la tête, comme quoi l'intelligence, ça serait être réactif, être dans l'immédiateté, marcher comme un ordinateur. Donc tout ça, on essaie de déconstruire ça en disant non, t'as vu, qu'est-ce que c'est cette histoire de... C'est la lenteur qui fait progresser, c'est prendre les choses une à une, c'est trouver un critère pertinent dans une information. On essaie de reconstruire autre chose que ces pensées automatiques, parce que beaucoup d'élèves, quelquefois, ont vu le premier de la classe se répond immédiatement, il n'a pas vu tout l'apprentissage qu'il a fait avec son oncle le dimanche précédent. C'est toutes ces choses-là que l'enfant ou l'ado a dans sa tête et que ça, c'est notre boulot, mais en lui prescrivant des exercices à faire devant nous. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Et je répète, c'est ou de la dévalorisation, ou du manque de confiance, de l'anxiété, ou qu'est-ce que vont penser les autres, ou c'est fichu, mais c'est malheureusement, je répète toujours la même chose, c'est souvent, j'aime pas ça.
Elena Pasquinelli, c'est important d'être attentif à ces cognitions, à ces pensées qui ne sont pas la réalité.
Oui, d'abord parce que de toute manière, nos cognitions et nos pensées attirent notre attention. Nos émotions, par exemple, attirent notre attention. Du coup, quand on a des émotions fortes, négatives ou positives, du plaisir, l'attention va se diriger vers ces émotions plutôt que sur la tâche sur laquelle on est concentré. De l'autre côté, connaître tout cela peut permettre... Pas seulement à l'individu en isolement, pas seulement à l'adolescent ou à l'enfant ou à l'adulte qui cherche à se concentrer, mais à lui et à son environnement à trouver ensemble des bonnes stratégies. À l'école, par exemple, dans une situation de classe où il y a plusieurs cerveaux plus ou moins attentifs, plus le cerveau de l'enseignant plus ou moins attentif, naturellement, le fait de connaître quels sont les mécanismes, les limites de l'attention, de la concentration, le rôle des émotions, qu'est-ce qui va pouvoir plus attirer l'attention des élèves à un certain moment, peut aider à structurer une séance, à mettre en place des activités avant pour éviter certains risques ou difficultés qu'on rencontre. Donc voilà, se connaître et connaître aide à structurer, mais pas seulement seul, aussi ensemble.
Didier Pleu, vous le disiez, il y a une émotion qui génère de la déconcentration, c'est la frustration. Expliquez-nous, rappelez-nous votre loi de la frustration.
La loi de la frustration, c'est que malheureusement l'humain est biologiquement programmé pour le plaisir et n'aime pas tout ce qui est difficile, etc. À part certains qui ont sans doute des tendances maso, je ne sais rien. Mais en général, non, on n'aime pas ce qui provoque un effort, un déséquilibre. Donc ça veut dire que si l'adolescent n'est pas habitué à des choses frustrantes, s'il n'a pas beaucoup de déplaisants dans la vie, de contraignants, pourquoi voulez-vous qu'il se concentre sur une affaire scolaire qu'il n'aime pas? Donc c'est pour ça que je dis toujours aux parents, mais... Alors, c'est vrai que je les provoque un peu, mais si vous êtes des parents, par exemple, chosifiés, on voit souvent ça à l'adolescence, à cause de ce fameux complexe du homard dont on nous a rabattu les oreilles je ne sais combien de fois en disant que l'adolescent est fragile, beaucoup de parents ont pris la position de l'hyper-protéger l'adolescent. Et des parents sont devenus chauffeurs de taxi, restaurateurs, banquiers, hôteliers, tout ce que l'on veut. Bref, l'adolescent ne fait rien. Combien de fois je demande à un ado, qu'est-ce que tu fais à la maison? Rien, je suis un ado. Donc il y a un petit problème là quand même. Je ne vois pas pourquoi un adolescent qui ne ferait rien pour les autres, c'est-à-dire qui pas simplement ranger sa chambre ce qu'il ne fait pas, mais participer aux tâches communes, faire des courses, faire des repas, participer au rangement de tout le monde. S'il ne fait pas ça, comment voulez-vous qu'il accepte la frustration d'être devant un devoir de grec, j'exagère, c'est à mon époque, d'être dans un devoir de La Fontaine, je sais pas quoi, une explication de texte, parce que il ne va pas aimer ça. Et c'est là que je dis qu'il faut une discipline de vie. Je dis toujours aux parents, mais vous ne pouvez pas tout d'un coup dire, il faut y aller sur l'école s'il ne se passe rien dans le quotidien à côté. C'est-à-dire que si vous avez permis que votre adolescent arrête le handball parce qu'il y a l'entraînement, il est repassé au judo, il n'y a pas de combat, je retourne au football, et puis ensuite je refais de la céramique et je repasse par le batique. S'il est complètement dans un univers de zapping et d'intolérance aux frustrations, comment voulez-vous qu'il soit passionné par une tâche qui est souvent difficile?
Là aussi, je pense que comprendre les mécanismes et comprendre, mieux comprendre comment est structurée notre cognition aide aussi à déculpabiliser un tout petit peu. Moi, en contact avec le monde de l'éducation, une chose que j'entends souvent, c'est de dire « Mais regarde, un bébé de 1 an, est capable de faire tout cet effort et tout seul, dans le plaisir, au fond, en rigolant, d'apprendre à marcher, d'apprendre après à parler. Et pourtant, c'est compliqué, personne ne l'aide. Mais là, il a la motivation pour le faire. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'école et qu'on lui propose d'apprendre à lire et du coup, il veut plus. Est-ce que c'est la faute à l'école qu'il ne veut plus apprendre parce qu'on lui a mal proposé les choses? Je pense que là, il faut déculpabiliser vraiment tout de suite. Apprendre à marcher, à parler, à communiquer avec les autres fait partie de notre bagage naturel. On est préprogrammé pour le faire. On n'est pas préprogrammé pour apprendre à lire. C'est compliqué, c'est difficile et c'est normal qu'on se trouve en difficulté même à trouver la motivation si on la construit pas.
Didier Pleu, comment on s'y prend pour freiner l'impulsivité mentale des adolescents? On s'y prend comment? On travaille en courte séquence. Vous parlez de la technique du salami dans votre
technique
ouvrage.
Technique du salami, oui, parce que souvent...
C'est quoi? Expliquez-nous.
Souvent, ces ados qui ont du mal à se concentrer, ils vont essayer de prendre un gros paquet. C'est-à-dire, s'ils veulent lire Proust, ils veulent lire 6000 pages tout d'un coup, 2000 pages tout d'un coup. Donc, non, si tu veux lire Proust, on va faire la technique du salami, c'est-à-dire, ce sera 10 pages par 10 pages. Hein. C'est-à-dire, on dit toujours, si vous invitez des gens à un apéritif, si vous coupez votre bâton de berger en 3 morceaux et vous l'offrez, vous verrez que les gens vont vous dire, c'est dégoûtant. C'est indigeste. Alors que si on le coupe en tranches fines, ils en mangent autant, mais ça passe mieux. Donc ça, c'est ça la technique salami, de séquencer les choses, de ne pas prendre quelque chose tout d'un coup. C'est aussi d'avoir des tas de petits post-it parce qu'ils veulent tout garder. Souvent, ils n'ont pas la méthode. Ils veulent tout mémoriser. Non, les grands chercheurs sont pleins de post-it parce qu'on veut décharger sa mémoire. Ce sont des tas de méthodes et c'est ça que je rappelle dans ce guide en disant il y a des tas de choses à faire. Séquencer le temps, séquencer les informations, savoir mieux mémoriser, savoir prendre les critères pertinents pour lutter contre cette impulsivité mentale.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est curieux parce qu'on a tous, sur l'apprentissage par exemple, on a tous des intuitions. Et les adolescents, comme les autres, comme les étudiants, étudiants universitaires, par exemple, ils ont toute une série de stratégies pour apprendre qu'ils considèrent efficaces. Or, il y a eu des magnifiques études qui ont cherché à tester toutes ces méthodes soi-disant efficaces, qu'on pense efficaces, et que j'ai utilisées, je le dis tout de suite, et que j'ai utilisées toute ma vie avant de lire ces articles-là. Une méthode étant celle de « je relis 50 fois ». Le truc de « bah comment tu apprends, je relis 50 fois ». On va étudier tout cela et on découvre que ces techniques-là ne sont pas nécessairement efficaces. On a une impression d'efficacité et que ce sont d'autres un peu plus, qui demandent un peu plus d'efforts, les techniques efficaces comme se retester. Mais comment le savoir si on ne nous informe pas, on ne nous donne pas ces techniques comme des stratégies?
Bonjour Sabine, vous appelez de l'Aveyron, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignante, non pas avec des adolescents, mais avec des CP, mais peut-être qu'il faut s'y prendre dès les petites classes pour que les adolescents arrivent à mieux se concentrer. Votre question, Sabine?
Ça fait une trentaine d'années que je suis enseignante, donc j'ai des petits, maternels et des CP. Et c'est vrai que je remarque de plus en plus d'enfants qui ont des troubles d'attention, des troubles de concentration, et beaucoup plus que d'enfants qui finalement ont des difficultés purement scolaires, c'est-à-dire des difficultés de mémorisation ou autre. Donc je me posais la question si des études avaient été faites sur ce problème-là, c'est-à-dire l'augmentation des problèmes d'attention. Voilà.
Elena Pasquinelli.
Pour moi, c'est difficile de répondre d'une manière nette, parce que établir s'il y a plus de cas demande d'avoir compté les cas avant. Et donc, c'est très difficile de savoir réellement s'il y a une augmentation des troubles d'attention, s'il y a une augmentation tout simplement de la déconcentration, ou s'il y a aussi, en effet, on fait plus attention, nous adultes, à tout cela, on le remarque plus souvent, etc. Une chose qu'on peut dire, c'est que cette génération se trouve probablement avec des distracteurs plus importants que d'autres générations, non seulement en présence à l'école, mais aussi à la maison. C'est-à-dire qu'on se trouve à apprendre à faire attention à quelque chose qui souvent est rapide, on l'a dit plusieurs fois, donne du plaisir de façon assez immédiate, assez rapide, quand on se trouve sur des tâches scolaires qui ne sont pas de la sorte. Bon, vous êtes enseignante depuis 30 ans, vous savez mieux que moi qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire. Ça demande un effort constant, méthodique, sur quelque chose de pas très attirant. Une lettre, honnêtement, n'est pas génial d'un point de vue du stimulus visuel. Donc voilà, on peut se trouver en difficulté parce qu'on n'a pas appris nécessairement à faire ce type attention à ce type de stimuli qui ne donne pas un plaisir immédiat.
Merci beaucoup Sabine de nous avoir appelé. Didier Pleu, un tout dernier conseil peut-être? On a quelques secondes.
Le dernier conseil, c'est de bien voir avec les parents dès le CP qu'est-ce qui se passe à la maison pour faire ce fameux vase communicant entre s'il n'y a pas trop de frustration à la maison, je ne vois pas pourquoi il y en aurait d'accepter à l'école.
En fait, développer la concentration de son ado, ça commence
Très tôt,
dès le plus jeune âge. Merci à tous. Merci Elena Pasquinelli. On peut lire avec profit comment utiliser les écrans en famille. Merci Didier Pleu. Votre nouveau livre vient de sortir, Développer la concentration de son enfant. Ça vient de paraître également chez Odile Jacob. Demain, nous recevons Richard Wilkinson qui publie un livre pas du tout rasoir, Pour vivre heureux, vivons égaux. Comment l'égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous. Vous pouvez témoigner, poser vos questions au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Alexandre Chénet et Pierre-Yves de Rolin.